France Inter.
Avec Emma Beaujean,
bonjour.
Avec Tristan, pardon, Guy Passureau, Oldelas, Daniel Morin.
Coucou Tristan.
Et notre invité, nos invités, Camilou et Zazie Marchal. Bienvenue Camille.
Merci.
Elsa va nous rejoindre. Elle est en transit. On va beaucoup voyager dans ce film.
Ah oui, ça c'est certain.
Natacha Presque, hôtesse de l'air, qui est au cinéma ce 2 avril. Avant de commencer, puisque c'est le point de départ de ce film, c'est-à-dire les rêves de métier quand on sera grand. C'est le rêve de Natacha, rêve de devenir hôtesse de l'air. Lisa, de quoi rêvais-tu quand tu étais petite fille?
Je voulais être médecin sans frontières.
Wow. Ah, c'est précis, c'est pas médecin, c'est médecin sans frontières.
Je voulais être médecin et voyager. Et puis j'ai fait.
C'était pour le tourisme.
Oui, un peu. Puis j'ai fait un an de médecine.
Et comment expliques-tu cet échec?
Quoi?
Comment expliques-tu cet échec?
La médecine, évident.
Elle soigne des gens à travers ses chroniques.
C'est gentil.
Attendez la chronique. On fait du bien aux gens, voilà.
Emma Beaujean.
Alors moi, au risque de paraître vraiment lèche-botte, je voulais vraiment travailler à la radio depuis toute petite. C'est vraiment le métier de mes rêves. Ça ou présidente de la République.
Ah ouais.
Bon, il a fallu faire des choix.
C'est pas fini.
Oui, c'est vrai.
Ce sera peut-être la première présidente.
Moi, je voulais être maître de conférence. Tu sais, quand j'étais petite, j'allais au cinéma pour voir des films. C'était un film sur la Chine, sur l'Inde. C'était un film documentaire. Et après, il y avait un monsieur ou une dame qui venait, qui avait réalisé le film. C'était Connaissance du monde. Il y avait un petit coin jaune sur l'affiche.
Bien sûr, oui.
Et un monsieur qui venait raconter, en fait, dans ce pays, on pouvait lui poser des questions et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce job génial? Et le monsieur m'a dit, je suis maître de conférence.
C'est un peu prof.
Mais en fait, oui, c'est un peu ça.
Ouais. Mais
ou
maître.
Reporter, ou journaliste.
Elle est un peu maîtresse maintenant.
Ou journaliste, un peu, tu vois.
C'est
un peu
Tristan
ça. C'est un peu flou, quoi.
Moi, je voulais être nounou, parce que j'avais une nounou et que je l'aimais trop, et du coup, je voulais faire comme elle.
Grosse ambition.
Daniel?
Il n'y a pas de petites ambitions.
Oh,
Leïla.
Jugement.
La maîtresse.
Le bashing social.
La cadour. Féministe, mais avec ses limites.
Oh, et toi?
Daniel, oui. Daniel.
Je voulais être tueur.
Ah oui, c'est très bien.
Mais c'est vrai.
Ambition.
Bonjour. Ah oui, là, il y a de l'ambition. Allez, là.
Bah, sniper, tueur, t'es pas loin. Oldelaf.
Moi, je voulais être docteur, et puis on a dû aller voir mon oncle qui était à l'hôpital, et je voulais pas rentrer, c'était fini. Je voulais du coup être sauteur à la perche. Voilà, ça a été.
Sauteur à la perche.
Ouais, bah, je le suis toujours, évidemment.
C'est un écart assez étrange.
Ouais, mais j'ai décidé.
Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Oldelaf.
Je rêvais, alors ça tombe extrêmement bien, je rêvais d'être pilote de ligne, mais sincèrement. Alors il y avait un peu tout. Il y avait l'uniforme, les voyages,
les filles,
et les hôtesses. Il y avait Natacha, quoi.
Tellement.
Et ben,
grosse ambition.
Des gros mecs bien.
Bien Airbus 300, ouais, c'est ça. Ouais.
Bien pas déconstruit.
Mais et je vous le prouve, il fallait faire Matsup, Matsp et l'école nationale d'aviation civile à Toulouse, qui est l'ENAC pour rentrer. Et quand j'ai commencé mes études après le bac, j'ai dit. C'est tombé.
Et ton CAP coiffure, il n'y avait pas. Non,
non.
Dommage.
Pourquoi t'étais pas bon en maths, Alain?
J'étais très bon en maths, mais Matsup, Matsp, c'est au-delà d'être bon en maths. Ouais. Très
j'imagine.
Difficile. Et de quoi, Elsa, vous nous avez rejoint, de quoi rêviez-vous quand vous étiez petite fille, comme métier?
D'être danseuse d'abord.
Ouais.
Alors, pardon, danseuse opéra ou danseuse,
danseuse
pole dance comme Tristan
Danseuse à l'opéra.
Et boum,
complètement gratte.
Parce que je mange ma copine.
Est-ce que ça veut dire que tu sais faire des grands éclairs?
Oui, bien sûr.
Ah ouais.
Tout le monde
a Daniel ça, aussi.
La preuve.
En tout cas, dans son emploi du temps, elle est capable de le faire.
Voilà.
Camille, de quoi rêviez-vous, petite fille?
Eh bien, pas de devenir hôtesse de l'air, figurez-vous, parce que je suis phobique de l'avion. C'est quand même assez cocasse comme situation.
Vraiment, c'est cocasse.
Mais surtout avec toutes les scènes que vous avez tournées.
Mais ouais. Mais
en l'air, entre guillemets.
Oui, ça va. On n'a pas trop de scènes en l'air.
Non, pas trop.
Si, même dans les petits avions.
Oui, non, mais ça, on vole pas. T'imagines, ce serait quand même déjà une aberration écologique de faire voler les avions juste pour des séquences.
Vous voulez dire que dans la scène finale, Vous n'êtes pas dans un avion qui vole ?
Non.
Et ce n'est pas Jacques Chirac ? Je suis miné.
Mais Nayeli, les films et la vraie vie sont deux choses différentes.
Et quand vous courez après l'avion, c'est faux.
Non, je cours vraiment après l'avion. Quand c'est dehors, en dehors de l'avion, moi, tout me va.
Alors vous rêviez de quoi ?
Et c'est vous la petite fille du début.
Vous avez vu, j'aurais pu me rajeunir assez facilement.
L'intelligence artificielle fait des trucs. Et L'Oréal. L'Oréal et l'IA font vraiment des trucs dingues.
Sinon,
vous rêvez
rêve,
de quoi alors ?
Moi, je rêvais de faire des comédies musicales. J'avais regardé 650 fois Le Roi Soleil. C'était mon rêve absolu.
Ce qui explique le début de carrière que vous avez embrassé.
Oui.
On en reparlera tout à l'heure. Ce film, Natacha, hôtesse de l'air, signé Noémie Saglio. Moi, j'ai extrêmement ri parce que c'est déjanté. Je ne sais pas si vous allez accepter le parallèle, mais pour moi ça rentre dans la famille des OSS 117.
Ouais. C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il y a un côté vintage dans le look, dans les dégaines.
L'esthétisme même de l'image, la photographie.
Même quand j'ai découvert le film, je me suis dit exactement la même chose.
On est d'accord.
Et surtout Noémie Saglio, la réalisatrice, elle a un côté très moderne. C'est qu'on est dans les années 60, mais elle ose avec une liberté, une audace, une folie.
Il y a des vannes actuelles en plus.
Moderne, et le mélange des deux, c'est assez jouissif.
J'adore le personnage d'Anne Charrier, notamment, qui fait un mouvement, un grand mouvement.
Qui réussit avec ses orteils à mettre la radio. C'est quand même...
Moi, j'aime son mari.
Et on embrasse...
Elle est au masseuse.
Il est suzeur.
Non, mais c'est tous les clichés des années 50, des années 60, c'est-à-dire avec justement ce regard et ses vannes sur le féminisme, sur le comportement des hommes, un discours extrêmement moderne.
Le miroir que ça tend à... par rapport à aujourd'hui.
Et puis
qu'étaient les femmes dans les années 60, je trouve que la manière dont elle le fait, c'est tellement intéressant et drôle.
Mais je trouve qu'elle va au-delà de ça, moi. Ouais. Je trouve qu'elle va dénoncer toutes les injonctions qui sont faites à tout le monde, et même le côté quand Walter, en fait, c'est quoi être un homme aujourd'hui ? C'est porter une moustache et parler comme ça, olé !
Ça, c'est le personnage de Vincent Dedienne.
Exactement.
Pour ceux qui n'ont pas reconnu l'imitation de Camilou, c'était Vincent Dedienne.
Tout le monde a reconnu le film encore.
Non, mais c'est vrai, c'est comment se libérer des codes, comment se libérer des injonctions, des obligations, de notre éducation, de notre culture, de comment on a été élevé, et des cases dans lesquelles on met les gens.
Et c'est réussi et c'est drôle. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Old Laugh, fan de Camilou et d'Elsa Zibar.
Je suis fan de Camilou. Je crois que c'est la fille de Chouchou et Lou. C'est la petite princesse des comédies musicales. Mais à Maubeuge, c'est carrément une star impériale. Je suis fan d'Elsa Silberstein. Dans l'ordre alphabétique, vous avez pas la gagne. Vous avez joué dans Van Gogh, Lautrec, Modigliani. Votre carrière, c'est quasiment une expo aussi. Et vous êtes là pour Natacha, hôtesse de l'air. Presque une comédie qui vole haut, mais se passe à terre. Vous cherchez la Joconde, elle vous file entre les bras. Alors que depuis toujours, elle était chez moi. Et oui, j'ai la Joconde chez moi, ça vaut très cher.
Ah ouais.
1, 2, 3, 4.
C'est génial.
Camille, vous avez joué 4 sizes à la télé. Et c'est dingue, je pensais que c'était un dessin animé. Ce que vous savez pas, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Trois filles bizarres qui ont une identité cachée.
Filles d'aujourd'hui, pas toujours en forme.
À la radio, la télé,
devant Nagui, les autres s'endorment.
Elle poliment lui sourit. Bosse quasiment gratuit. Elle pleure leur mère, c'est pas un mystère. C'est ça, bosser pour Nagui.
4 size, c'est beaucoup de size. 4 size, ils ont plutôt 3 size.
Elle s'appelle Leila et Malisa. C'est quasiment Mona Lisa.
Mais en coulisses, elles ont du vice. Elles disent que tes blagues sont caca.
C'est dégueulasse.
4 sizes, c'est beaucoup de sizes. 4 sizes, disons plutôt 3 sizes.
Ouais, je suis fan de Camille et Elsa. Deux prénoms de chanteuses entre le fil et t'en va pas. Vous êtes nos invités, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Olivier, présent.
Ah, c'était génial.
On a voilà, Catherine et Marie-Christine González. Voilà.
Merci.
Et Catherine, Marie-Christine qui apparaît à la compagnie
Des Bacs à Sable.
Des Bacs à Sable. Voilà.
Absolument.
Merci beaucoup, Daniel.
Merci beaucoup, c'est génial.
Trop bien.
Oh là là.
Bravo. Je m'appuie la blague. 4, 5, 3, 5.
Oui, c'est vraiment drôle.
Bon, après, il y a deux vannes que j'ai pas aimées. Mais c'est pas grave.
Il parlait d'un autre Nagui, c'est pas toi. C'est un autre.
C'était le studio d'à côté.
C'est un autre.
C'est Nagui.
C'est dans le multiverse.
C'est pas toi,
enfin. Natacha, presque hôtesse de l'air. Le point de départ est donc cette petite fille qui écrit d'ailleurs très soigneusement dans ses cahiers d'école que le rôle d'une femme est de rester au foyer, mais elle finit par
raturer foyer
parce que c'est pas du tout son rêve. Et on voit l'évolution du personnage d'Anne Charrier, c'est vrai, qui est sa maman, qui au début est très femme au foyer, et qui va au
qui
fur et à mesure...
Qui se maquille, qui doit être prête pour que son mari...
Je vais être toute chiffon.
Qui ne se montre pas, en fait, devant son mari, si elle n'est pas complètement appréhendée.
Bien sûr. De rêver de la vie de sa fille par procuration, rêver de sa vie, c'est joli, vraiment.
Exactement.
C'est des couples qui marchaient, quoi.
Ça a bien évolué, tu vois.
Antoine, Isabelle Adjani, Elsa, alors vous, Elsa Zieberstein, vous êtes d'abord dans une maison sublime, enfin, nous donner l'adresse, parce que elle est ouf, cette maison.
Ouais, dans le sud, près de Nice, je crois bien.
Ah bah, dis-donc,
Elle est dingue. Elle est dingue, cette maison.
Pour la petite anecdote, on était quand même allé dans le sud pour qu'il fasse beau. Et il y a eu une tempête, il faisait que pleuvoir.
Ça se voit pas dans le film.
Ah ouais, non, bravo.
L'intelligence artificielle fait des choses formidables. Ouais. Elle vit dans sa planète, elle est persuadée.
Elle attend
l'amour.
Elle est très patiente.
Elle attend le retour de l'amour. Ouais.
Oui, c'est Colette qui est faussaire, qui raconte sa relation toxique avec un homme qui est comme un gros pervers narcissique, mais elle est dans sa bulle, elle ne le voit pas. Donc,
un homme qui a volé la Joconde.
Voilà.
Ça, c'est une histoire vraie.
Exactement.
Parce que c'est ça qu'il faut
tout
aussi dans le film.
Tout s'est inspiré de cette histoire de vol de Joconde au début du siècle.
Et de demande de l'Italie de restituer la Joconde à l'Italie, de ne pas la laisser en France.
Voilà, exactement. Mais ce que j'aime, c'est que c'est des personnages féminins totalement haut en couleur, fous.
Ah, vous êtes déjantés, vous faites peur.
Personnage ou à être un gars.
Vous faites peur.
Elle a un super chapeau.
Elle aime follement un homme et elle l'attend. Et quand elle se rend compte qu'il faut quand même aller le chercher et voir ce qui s'est passé, elles partent toutes les deux. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été heureuse qu'on me propose ce personnage de Colette, qui est quand même une femme, malgré tout, des années 60, mais complètement allumée dans sa tête.
Ah, totalement, totalement.
Désespérée, brisée en mille.
Ouais, et puis dans l'action.
Et en même temps, qui va décider de s'en aller.
C'est ça.
Et d'évoluer quand même un minimum.
Les costumes sont dingues.
Mais surtout, parlons des coiffures, parce que ça va pas du tout, vos cheveux. Le problème part de vos cheveux.
Bah, merci, Nagui. Vous êtes plate à cause du casque.
C'est-à-dire que les épreuves, j'ignorais, moi, les épreuves pour devenir hôtesse de l'air, puisque c'est Vincent de Dienne qui
Il fait passer, ouais, un peu.
Non, mais il est torture pour faire passer devant un jury. Elles doivent savoir marcher. Il y a des chorégraphies de ouf que je n'ai jamais vues dans un avion pour servir le café ou ramasser quelque chose.
Sur un trampoline.
c'est extrêmement drôle. Vous avez dû.
Ce passage, j'imagine, c'est compliqué, mais c'est dur.
Ouais, mais c'est fou.
Le trampoline. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, ils vont rien comprendre.
Ça doit gainer quand même.
Mais oui, ça gaine. Et surtout, c'est très dur de ne pas rire. Là, ça a été un passage vraiment de ne pas rire.
On peut le dire, l'épreuve étant de servir des boissons pendant les turbulences, il faut être capable, sur un trampoline, de garder des verres pleins sur un plateau. Voilà, tout simplement. Après, c'est à voir. Tout ça chorégraphié avec le jugement extrêmement violent, agressif de Vincent de Dienne, qui fait bien le méchant comme il faut.
Mais il a ça dans le sang. Hein.
Il n'aime rien, Vincent de Dienne. C'est un garçon aussi méchant, comment peut-il faire carrière?
Il est merveilleux.
Il est merveilleux.
On ne dit pas de mal, on dit la vérité.
c'est voilà, ouais.
Les merveilleux dans le... Non, ce qui est beau, je dirais, c'est que tous ces personnages-là, ils veulent réaliser leurs rêves. Et ce que je ressentais encore en revoyant le film l'autre jour, c'est que tous ces personnages, ils veulent réaliser leurs rêves, devenir eux-mêmes. Et c'est une sorte de leçon aussi pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui verront le film.
Ah,
c'est
oui.
Comment vous pouvez accomplir vos rêves, comment vous pouvez rêver et que ça se passe et vous battre pour devenir qui vous êtes.
Même si on veut l'objet de discrimination,
même le personnage. C'est un peu une métaphore de ça, absolument. Ouais. Ouais, ouais.
J'aurais rêvé de le voir quand j'étais ado.
Parce qu'elle est trop grande, elle a le cheveu trop plat, elle est quand même tout le temps discriminée.
On subit tous des discriminations ridicules, en fait, dans la vie.
On est
d'accord. Je sais pas, je pense.
Et il y a aussi le personnage de Baptiste Caplain qui est qui est fou, qui est totalement d'ailleurs dans le personnage qu'il a, qui peut avoir sur scène par moment dans sa diction et dans sa vivacité. Sauf que lui, il est, c'est le complotiste, mais sauf que tout ce qu'il annonce va se réaliser dans les 60 ans qui vont suivre.
C'est vraiment d'être très gros rire dans la salle.
Drôle. Pas tous qui parlent quand même de gros lézards qui remplacent.
Oui, tout va
On ne sait pas. Sur le pangolin,
il se passe tellement de choses.
Fais peur. Voilà, c'est drôle, c'est réussi, vous l'avez compris. C'est au cinéma ce 2 avril. On en parle jusqu'à midi et demi. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas contente. C'est Lisa Delmotte. Bravo, vous n'auriez pas fait ça comme ça, mais pourquoi ? Si.
Non. Non, je n'aurais jamais pu être hôtesse de l'air. Tu dois sourire même quand tout va mal. Moi, je tire la gueule même quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe, Lisa ? On va tous se cracher ? Ah non, je viens de gagner au loto. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai bien conscience que le film parle aussi d'une aventure avec la Joconde, mais j'ai décidé de lui foutre la paix sur cette chronique, en solidarité avec toutes les Lisa à qui on demande si elle sourit vraiment. Je veux dire, voilà. Mais hôtesse de l'air, je ne pourrais pas servir à boire dans le ciel. Non, merci. Hein. J'attendrai d'être barman au paradis. Ouais, en 2025, même après la mort, faut un job alimentaire. Attention, dur. Mais c'est le rêve de Natacha, votre personnage Camilou, et je dois admettre que c'est un métier fascinant quand même, hôtesse de l'air. Déjà, elles sont debout, en talons, dans l'avion. Ouais. Je n'ai qu'une seule question, quel est leur secret pour ne pas avoir les jambes gonflées ? Enfin, moi, après une petite heure de vol, mes jambes m'ont tellement gonflé, on dirait des ballons d'anniversaire. Quoi. Tu plies ma cheville, t'as un caniche pour la gamine. Quoi. C'est vraiment, je savais pas que c'était possible d'avoir autant d'eau en soi. Il n'y a que moi qui me transforme en bouillotte dès l'embarquement, sérieux ? Bon, après, ça n'aide sûrement pas que j'ai dû descendre un litre de liquide en 3 secondes avant de passer à sécurité. Voilà. Je refuse de gaspiller mon parfum. Voilà. Putain, le litre de Dior, j'adore, il tabasse. Hein. T'ajoutes à ça la bouffe qui te sert dans l'avion. Poulet ou légumes ? T'es gentille, madame l'hôtesse, mais vu le sel que vous foutez dedans, tu peux me dire poulet, bœuf ou reste humain, je goûterai pas la différence. Tu calmes sur le sel dans l'avion, vous cuisinez, vous dégelez la route, là. Qu'est-ce que c'est ça, vraiment, je gonfle. C'est vrai. Je gonfle comme c'est pas vrai. J'embarque. Je suis Kate Moss, j'atterris, je suis Carlos. Quoi. Je sais que c'est vol. J'ai beaucoup d'admiration pour les hôtesses de l'air et les stewards parce que le passager d'un vol est probablement le pire type d'être humain. Quoi. La voiture, déjà, ça fait ressortir le pire en nous. Ah, moi, j'ai pas peur qu'un ex fasse circuler une vidéo de moi au lit, mais de moi au volant. Qu'on se le dise, à l'arrêt, je suis pour le vivre ensemble. Au rond-point, j'invite tout le monde à rentrer dans son pays, sachant que je suis même pas de ce pays. Mais l'avion, c'est le niveau supérieur. Plus personne n'a de patience dans l'avion. Les gens veulent tellement être les premiers à sortir, ils se lèvent avant même qu'on ait atterri. Mais, et je vais tester quel genre de passager vous êtes sur la réaction à ce que je vais dire, le pire, ce sont les monstres qui inclinent leur siège. Ne me dites pas que vous êtes de cette équipe-là. Déjà, je suis en train de manger, en fait, donc merci. Maintenant, j'ai du poulet sur les genoux. À moins que ce soit des restes humains et que sel, je sais jamais. Ce que tu es en train de faire en inclinant ton siège, c'est lancer un effet domino. Je fais la dernière rangée où les gens, s'ils s'inclinent, ont la tête dans les chiottes, en fait. Enfin, ils ont l'impression parce qu'ils sont entourés d'eau, mais ils sont juste entre mes cuisses.
Mais de la rétention d'eau,
J'ai pas uriné. J'ai donc beaucoup d'admiration pour le personnel qui doit gérer tous ces gens-là, sans compter les gens malades, les gens stressés, les terroristes. C'est quand même un des rares métiers où on détourne ton outil de travail. Personne n'a jamais hijacké ma chronique. Pourtant, Dieu sait que j'ai déjà fini dans le mur. Et cet enthousiasme qu'elles ont aussi en nous montrant pour la 2000e fois les consignes de sécurité avec le même sourire. Moi, après 4 mois de tournée, j'en avais marre de raconter mes blagues en faisant semblant d'y croire. Mais imagine 10 ans à essayer de faire croire aux gens que si on se crache dans l'océan, il va nous sauver, leur toboggan. C'est sûr. Donc tout mon respect aux hôtesses de l'air et sur ce, je vous laisse. J'ai un litre de Chanel numéro 5 qui commence à faire effet là.
C'est vrai que c'est l'enfer.
C'est l'enfer, mais surtout, ce qui est le pire truc qui puisse m'arriver dans un avion, c'est d'être à un siège où tu ne peux pas incliner le dossier, parce qu'il y en a où tu ne peux pas.
Mais oui, mais moi j'incline. T'inclines, toi ?
Non, moi j'incline pas.
Bah, c'est pas beaucoup.
Sauf si ton, celui de devant l'incline.
Oui, mais c'est ça, mais c'est voilà, un horrible.
Non, mais c'est psychologique. Tu dis, ah, je vais me détendre un peu, donc t'as tu te dis, il y en a de
plus,
moins en moins.
Tu gagnes 2 cm.
Ouais, tu gagnes 2 cm. Ouais, mais. Je ne dis jamais non.
Parce que ça gonfle dans la vie.
Mais t'as, si t'as une sortie de secours derrière toi, tu peux pas.
Coincé, ouais.
Tu peux pas. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais.
Vous avez déjà eu des trucs horribles en avion?
Ouais.
Turbulence. En fait, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Je vais regretter.
Non. Le truc le plus horrible qu'il y a, c'est quand le personnel, quand l'hôtesse de l'air
s'assoit
et sa
ceinture.
Ah oui. Ouais.
Et c'est-à-dire, ouais. C'était un vol intérieur qui faisait Paris Chambéry. C'était TAT, une compagnie qui ne doit plus exister. Et donc, on est vraiment dans un petit coucou à hélice.
Ah oui, non, mais les coucous, ça fait peur.
Mais un coucou d'une centaine de personnes, mais des anciens. Les avions, vraiment.
Les dirigeables.
Et là, l'avion tombe, je pense, de plusieurs dizaines de mètres. Le sentiment qu'on a, en tout cas, c'est que...
Ouais. Le cœur qui soulève.
C'est pas Space Mountain.
C'est Space Mountain.
Voilà, mais c'est vraiment le gouffre. Tous les masques à oxygène tombent, et là, on entend les hôtesses crier « Oh mon Dieu !» Et là, la peur de l'hôtesse a filé la peur à tout le monde.
Ah bah, tu m'étonnes.
Ça n'arriverait jamais à Natacha.
Et l'histoire, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est lorsque le pilote de ligne reprend les commandes de l'avion, merci. Et donc, tout le monde se calme. Pardon pour le détail, mais certaines personnes ont pas eu le temps de prendre le sachet vomitoire. Donc tout le monde récupère les trucs à droite et à gauche et machin. Et puis là, on entend le pilote qui dit « Nous refaisons une tentative sur l'aéroport de Chambéry ». Et il y a tout l'avion qui fait « Non !» Je vous jure que c'est vrai.
Ouais. Vous avez atterri où ?
À Lyon. Après, ils ont mis des bus pour nous rapatrier. Et puisqu'on en est à parler des avions, je vais balancer sur un garçon que j'aime beaucoup, qui est un pote, qui s'appelle Manu Lévy, qui est sur NRJ, pour ne pas le citer, qui a une spécialité.
Non,
et je balance.
Dire,
si, je m'en fous, je balance.
C'est trop drôle.
Manu Lévy, quand il prend l'avion, prend les sacs vomitoires et décolle très délicatement
le fond
du sac vomitoire. Et il le replie et il le remet en place. Pour que le mec qui suit.
Et il le fait très bien.
Ouais.
Ça se voit pas.
C'est sa qualité.
Mais c'est immonde.
C'est immonde, voilà.
Mais c'est drôle.
Manu,
c'est drôle.
Cette vanne était pour toi. C'est bien fait, t'avais qu'à pas le faire. Revenons donc à ce film Natacha, hôtesse de l'air, presque hôtesse de l'air. C'est drôle parce que ça part évidemment de la bande dessinée, de ce que l'on connaît de cette bande dessinée.
Moi, je la connaissais pas, la bande dessinée.
Moi,
j'ai jamais lu Natacha.
D'accord. Ouais. Ok. Et donc vous êtes renseigné sur ce qu'était la bande dessinée avant de jouer.
Moi, j'ai lu quand on m'a proposé le rôle, mais je la connaissais
pas du tout.
Non,
vous avez lu le scénario, mais est-ce que vous avez lu la bande dessinée?
Oui, j'ai lu la bande dessinée, mais ça n'a pas grand-chose à voir.
Absolument,
non plus,
c'est ce que je voulais dire. Ouais.
Mais parce qu'en fait, faut savoir que Natacha Presque, hôtesse de l'air, c'est pas l'adaptation d'un tome précis de Natacha hôtesse de l'air. Déjà, Natacha hôtesse de l'air, elle est hôtesse de l'air dans la BD. Donc c'est un peu le préquel, c'est comment Natacha est devenue hôtesse de l'air. D'accord. Ça n'a jamais été raconté au lecteur.
Oui, bien sûr.
Ah, okay. Cette BD est signée Goss et Walteri. Vous êtes donc avec Vincent Dedienne, Camille Lou, Elsa Zibert, Didier Bourdon, on n'a pas parlé de Didier Bourdon, qui est en... c'est Molra, et pas Malraux, c'est Molra. C'est-à-dire que c'est un ministre de la culture totalement paumé, totalement largué.
Qui sert à rien,
qui fait des discours de 8 plombes. En reprenant les paroles de Pascal Obispo.
Par exemple.
J'ai pleuré de rire sur C'est mon millésime. Et
qui c'est très, très drôle.
Moi, je dis respect. Il y a également Antoine Gouy, lui aussi, qui est son assistant au ministère et qui s'appelle Jacques, point de suspension.
Mais qui manque de charisme et qui ne réussira pas dans la vie.
Tellement drôle. Anne Charrier qui est absolument formidable.
Ah, ouais.
Isabelle Adjani, je l'ai dit. Philippe Bieu également. Et puis, la voix off. C'est-à-dire que vous entendez la voix off de votre film.
Ouais, ça c'est génial. C'est tellement audacieux.
Ouais.
Mais c'est tellement Noémie du coup, parce que Noémie elle sort des codes tout le temps. Ouais, Fabrice Lucchini et ouais, on peut parler avec la voix off, c'est génial.
Et lui dire de se taire.
Exactement.
De façon très virulente.
Oui.
Mais parfois, non. Il faut être dur avec les gens chiants.
C'est trop. T'as compris, Daniel? Non,
ça, je veux dire, je suis au courant.
C'est une manière de casser les codes. Ouais. Elle avait envie de mettre une voix off et elle s'est dit, oh, en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ouais. Elle s'est dit, ça serait drôle si les personnages pouvaient parler à la voix.
Elle lève la tête, voilà. Elle regarde en disant, ça va.
Et ça fonctionne.
Et ça fait bébé.
La Corée dirigée par Vincent de Dienne. Mmh. Et puis l'intrigue, car il y a quand même une intrigue au-delà du fait de savoir si Natacha va réussir ou pas à être hôtesse de l'air. L'intrigue est de retrouver la Joconde, c'est-à-dire Mona Lisa. Alors, je me permets, parce que je trouve que ça aurait pu être dans la BO du film.
C'est vrai, carrément. Ça aurait grave fonctionné.
Mais ça aurait grave fonctionné, absolument. Et c'est un petit clin d'œil à notre Lisa de service. C'est un chanteur qui s'appelle Shaking Stevens. C'est vraiment le truc. C'est le rockabilly. Ah, si, écoutez, c'est très sympa. C'est l'intrigue, vont-elles ou pas, vont-ils, non, vont-elles, parce que c'est vrai que le...
Vont-ils,
tu peux
dire.
Non, oui, en l'occurrence, c'est surtout toutes les deux qui partaient.
Walter.
Ouais, il sert pas à grand-chose.
Oui, mais quand même.
Il récupère beaucoup, mais il sert pas à grand-chose.
Il est très maladroit, mais voilà. Il est attachant.
Quand même. Apparemment, vous en connaissez d'autres. Natacha Presque, hôtesse de l'air, signée donc Noémie Savio, et c'est au cinéma ce 2 avril. Voici Tristan Lopin. Ah, oui.
Anecdote, la semaine dernière, ma cousine m'a demandé de l'accompagner à une visite d'appartement pour, je cite, la rassurer. C'est fou, on ne se voit pas changer. J'étais persuadée de continuer à être l'enfant fragile et timide de mes 10 ans, alors qu'en fait, pour certaines personnes, visiblement, je représente une forme de présence masculine réconfortante. En fait, je suis trop un bonhomme. Ah, je vous jure, ça m'a fait un bien fou qu'elle me demande ça, ça m'a libérée. Maintenant, je me mets à écarter les jambes dans le métro beaucoup plus que ce que la taille de mon pénis ne me l'impose. Je commence à donner des conseils non sollicités à des meufs sur des sujets sur lesquels je ne connais absolument rien. Ah oui. Je crois que ma cousine a débloqué mon côté beauf. Je suis dans ma Patrick Sébastien era.
Ouais.
Yes. Il y a même des meufs qui commencent à bien me plaire. Là, si jamais t'as envie qu'on se prenne un petit kawa après l'émission, t'es écoute. Pardon, je suis désolée, maman. Maman, si tu m'écoutes, tu restes la seule femme de ma vie. Non, ne t'inquiète pas. D'autant que ma cousine m'a surtout sollicité pour que je lui donne mon avis sur l'appartement en question. Bon, alors j'ai toujours su que je présentais bien. Les mères de toutes mes copines quand j'étais ado leur disaient qu'elles avaient le droit de sortir si c'était avec moi parce que ça les rassurait. Tu m'étonnes. Je crois pas que pour une meuf il existe un lieu plus safe que de passer la soirée en tête-à-tête avec moi, à part si t'as plus de 25 piges et que tu passes la journée sur le yacht de DiCaprio, évidemment. Mais là, avec ma cousine, tous les deux, bien propres sur nous, c'est vrai que c'est là que j'ai compris que si j'étais en couple avec une meuf, je serais le roi du pétrole. Je vous jure, ce quart de seconde où ils ont cru qu'on était ensemble, j'ai vu une étincelle dans leur regard. Frédéric Mitterrand déguisé en Ronald McDonald à un goûter d'anniversaire, quoi. Oh. Les deux propriétaires, jeunes septuagénaires, étaient ravis. Jusqu'à ce que ma cousine ne leur rappelle qu'elle était mariée avec une femme. Elle est trop mignonne en plus. Elle leur avait imprimé une CV de leur CV à chacune, une photo d'elles deux à leur mariage pour qu'ils se rappellent de leur tête, et surtout du fait qu'au-delà d'être lesbiennes, elles sont blanches avec du pouvoir d'achat. Et ça annule le ciseau direct. Ils ont adoré ma cousine, ils lui ont dit qu'ils lui donnaient une réponse dans la journée, très enthousiaste. J'ai tout de suite senti qu'ils allaient la choisir. C'est rare, mais j'avais été mauvaise langue. Pourtant, c'est pas mon genre.
Un peu quand même.
Oui, alors c'est pas une chronique participative, Lisa, mais... Bref, 3 heures plus tard, elle reçoit un appel des proprios lui disant qu'elles avaient l'appart. 2 pièces, refait à 9, balcon filant, vue sur tout Paris, franchement incroyable. Ouais. Ma cousine est refaite. Et puis le proprio lui demande : vous voulez savoir pourquoi on vous a choisi ? Déjà, ça pue. On entend vraiment le vous voulez savoir pourquoi je suis un mec bien. Ouais. Et là, le mec enchaîne : c'est parce qu'en fait, on cherche des locataires longue durée. Il n'y a qu'une chambre, et comme vous êtes lesbienne, on s'est dit vous ne quitteriez pas l'appartement tout de suite vu qu'il n'y aura pas d'enfant.
Oh.
L'enfer. Vous connaissiez, je ne
ne suis pas raciste, mais découvrez des ordures dans les bars. Je suis un peu homophobe, mais parfois ça me dépanne. Ma cousine se défend, lui explique que la PMA pour toutes est légale en France et que donc le sujet de l'enfant va bel et bien se poser. Et là, le type, sourire dans la voix, lui plante un ultime coup de couteau dans le cœur avec un « Ouais, mais vu votre âge, on s'est dit que vous auriez du mal quand même.
Oh »
Mais ferme c'est... ta gueule, Michel, en fait.
Mais je disais ça en rigolant.
Si la loi pour mourir dans la dignité était déjà passée, ça ferait longtemps que les enfants de Michel auraient hérité, je vous le dis. Alors non, on s'est dit tout à l'heure, on ne se voit pas changer, mais quitte à se foutre en couple, prévoyez de vous mettre avec quelqu'un qui est capable d'être honnête avec vous. Manifestement, on ne se voit pas non plus devenir très con.
Yes. Oh,
bravo.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, elle a refusé l'appartement, je crois.
Tu m'étonnes.
Mais c'est horrible.
Elle aurait dû prendre faire plein d'enfants.
Plein de crèches. Une crèche dans la part
d'élevage. C'est là qu'on se dit qu'on n'est pas autant salaud que ça. Hein. Finalement, au final. Il y a un peu de marge.
Je m'inquiète un peu quand même. Camille Lou, Vincent de Dienne, Didier Bourdon, Elsa Zieberstein, Antoine Gouy, Fabrice Uchini, Isabelle Adjani, Philippe Vieux, Anne Charrier. Enfin, un pur casting pour un film dans lequel vous avez, j'imagine, aussi chacune apporté peut-être des propositions, des idées. Camille, au-delà de ce côté extrêmement physique, parce que vous faites des cascades.
Courir partout.
J'adore les cascades.
Il y a une scène où vous tombez de la voiture, face première sur le sol, et je me dis, mais c'est...
Ça, d'ailleurs, quand je me relève, on voit que j'ai un petit bleu.
Non, mais on est d'accord, il n'y a pas de trucage.
Il y a une partie qui est faite par la cascadeuse, mais on doit raccorder ce moment où je tombe sur le sol, c'est moi qui le fais. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a, et je crois que c'est Noémie Saglio, la réalisatrice qui le dit, il y a un petit côté Cameron Diaz dans votre personnage.
Ouais, j'adore. Moi, je prends.
La ref,
je prends. J'adore. J'ai pas cherché à copier ou quoi qu'est-ce.
Non.
Mais
un peu casse-cou, un peu casse-cou et maladroite, un peu.
Et rigolote malgré elle.
Ouais, c'est ça.
Et elle toujours avec le sourire.
Qui cherche pas, en tout cas, c'est vrai qu'elle cherche pas à faire rire, elle cherche à réaliser son rêve et en fait, en le réalisant, elle fait un peu rire beaucoup de monde.
Et Elsa Zieberstein, votre personnage est une amoureuse malheureuse. Et là aussi, dans une interview, Noémie dit que c'est vous qui avez eu l'idée que l'on voit l'italien dont vous êtes éprise, c'est vrai ?
Non, je trouvais que ça n'allait pas assez loin. Quand elle m'a proposé le rôle, j'ai dit, il y a tout qui est là, mais je trouve qu'on pourrait pousser, quand elle parle de lui et tout, vraiment se rendre compte qu'elle est complètement... Ouais, puis même qu'elle est complètement dans un déni absolu et qu'elle est vraiment tombée sur un gros connard. Mais on s'est amusé, on est parti en impro et après on s'est amusé, elle a tout réécrit et on sent qu'elle est tombée vraiment sur un homme qui lui faisait du mal. Mais j'aime les personnages qui ont cette naïveté et cette folie. Elle se rend même pas compte de ce qu'elle a vécu. Et après j'ai dit, ce serait vraiment drôle qu'on le retrouve. Qu'il soit vraiment une loque qui est désespérée, quoi. Donc voilà, donc c'était.
Le contraste fonctionne.
Ouais. Ah oui,
mais.
Désolé pour l'acteur, mais.
Non, mais ce qui est génial avec cette réalisatrice, c'est que c'est elle qui avait fait Connasse. Et je trouve qu'elle est totalement irrévérencieuse, pas politiquement correcte, et qu'elle ose aller dans des endroits où ça fait mal, elle ose tout.
Oui, mais sans
malgré les années 60, elle se dit, je m'en fous, ça me fait rire, allez, on y va, comme si on était entre nous à dîner, et elle défonce tout,
réussissant l'exploit de parler à tous les publics. C'est-à-dire qu'il y a zéro vulgarité.
Ah non. Et dimanche, c'est vrai qu'il y avait une projection, il y avait des copains à moi qui sont venus avec trois enfants, des 10 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont tous fans, ils veulent revoir le film déjà. Donc...
Les plus durs à convaincre en plus,
c'est pas facile. C'est vrai,
ouais, non, c'est réussi, absolument. C'est drôle, c'est rythmé. Une bande-son... qui justement fait
totalement rêve ça
au genre du madame quoi.
Exactement. Exactement ça.
Ah, on adore. Les costumes sont déments aussi, ouais.
Tellement coloré, tellement fou, le chapeau que vous portez.
C'est dommage à Audrey Hepburn, ouais.
Réussi. Ah, j'avais pas la rêve, pardon.
Elle a
mis plein de choses comme ça avec des chapeaux
transparents
et
tout comme ça.
Ou des trucs à la Polymagou un peu, enfin c'est des références comme ça.
La musique, justement, on va en parler de cette musique dans vos vies. On recevra tout à l'heure d'ailleurs Céline d'Auvergne, parce que je parlais de cette intrigue de retrouver la Joconde et Mona Lisa et de tous les marchands potentiels qui volent, qui détournent. La rumeur qui dit que dans nos musées maintenant, on a que des copies.
Je connaissais pas l'histoire de la Joconde, moi j'ai trouvé ça dingue. Ouais. On ne sait pas si c'est la vraie ou la fausse Joconde au Louvre.
On va lui poser la question tout à l'heure à Céline d'Auvergne. La musique dans vos vies, on va commencer par vous, Elsa Zieberstein. Vous écoutiez dans les années 90 Barbara Streisand. C'est pas ça?
Plus tard ça, mais en 90 j'écoutais pas ça, mais j'écoutais plutôt Dao en 80, dans les années 90.
D'accord.
Mais j'aime ça, je suis folle.
Je vous imagine bien.
Non, mais je suis folle d'elle.
Prendre un bain dans du lait d'anès en train d'écouter Baba.
Non, mais je suis folle d'elle. Mais je l'écoute encore, même souvent, parce que j'écoute beaucoup de musique avant de faire des scènes. Quand je travaille, je suis tout le temps.
Pour vous mettre dans un état.
En plus, une femme
hyper forte qui était une des premières productrices à vouloir s'émanciper.
J'adore, elle est incroyable. Ouais. J'écoute beaucoup de musique avant de jouer et je me concentre comme ça. Et c'est une des chansons que j'écoute beaucoup avant d'aller.
The Way We Were. Que se passait-il, Leïla, dans la vie d'Elsa Zieberstein dans les années 90?
C'est une rencontre, celle de Maurice Pialat pour le film Van Gogh et l'histoire est belle. Vous faites le casting.
Encore un tableau.
Vous faites le casting pour être Silhouette et finalement. Vous obtenez un rôle et il vous dit même c'est pas la peine d'apprendre le texte, c'est comme ça qu'on devient mauvaise.
Non, ça c'est particulier à Maurice Pialat. En fait, j'étais dans l'herbe, j'attendais comme on était Silhouette toutes, et à un moment, le lendemain du premier jour, il est venu me voir, il a dit il nous a donné des textes, il a dit n'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise. Ce que j'ai pris vraiment que pour Maurice Pialat.
Oui.
Et j'ai dit je regarde quand même la première phrase pour vous la dire. Et quand j'y repense, c'était « Ah, le monde est petit », quand ils m'ont parlé de toi, je me suis dit « C'est lui ». Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « C'est bon, t'as le rôle, va t'habiller ». On m'a prise, on m'a mis une robe rouge qui n'est pas faite pour moi, qui est trop grande d'ailleurs. Je suis revenue avec cette robe rouge, il m'a poussée devant la caméra, je suis allée voir Dutron. Et je connaissais rien à la vie, j'avais rien vécu, je commençais les cours de théâtre, et il m'a dit, mais pas comme ça, on dirait une écolière. Je jouais une prostituée, donc imaginez-vous.
Et voilà, le film.
Et après, j'ai tourné pendant un mois, et puis le film est allé à Cannes, et j'étais
devenue au César. Vous avez oublié de dire qu'il fallait l'embrasser, c'est qu'il vous a poussé dans la caméra, mais il fallait.
Non, il ne fallait pas l'embrasser, il fallait faire toute une scène avec Jacques Dutronc, quand même.
Ouais.
Donc, en fait, voilà, après, le film a fait le chemin qu'il a fait, et c'est un immense film, un grand, grand film.
Voilà. Et ça reste un bon ou un mauvais souvenir?
Extraordinaire.
On peut avoir des mauvais souvenirs. On peut avoir des mauvais souvenirs d'une œuvre.
Non, extraordinaire.
D'accord.
Extraordinaire, c'est un génie. J'ai eu la chance de côtoyer un génie. Et de faire ce grand, grand film avec Jacques Dutronc. Et j'en suis fière. Et c'est mon premier film. Et pour moi, c'est un grand, grand souvenir.
Dans ces années, quand vous étiez petite fille, Camille Lou, vous écoutiez, vous chantiez.
On a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid.
C'est pas dans le même registre. Hein.
C'est la chanson que vous chantiez en famille, en fait.
Mais oui, c'est ce que. Mais ma famille organisait tout le temps des karaokés. Alors, on y avait droit à tous les anniversaires, les mariages,
je
vraiment.
Je supporte c'est... pas ça. Voilà.
Ah, ouais.
C'est génial.
C'est
je sais pas pourquoi je l'adore, n'oubliez pas les paroles. Je ne sais pas d'où ça vient.
Merci Camille, merci. Je vous donne l'échec comme promis, c'est
cool. Non, mais voilà, c'était la chanson du karaoké. Je la connaissais par cœur.
D'accord.
Et vous avez participé déjà au Resto du Cœur?
Non.
Étonnant.
Oui, c'est vrai. C'est fou. Faudrait boucler la boucle aussi, que je puisse. Mais ça serait une belle. En plus, j'adore les Restos du Cœur. J'adore.
Et puis vous aimez chanter.
Je déteste les Restos du Cœur.
Mais non, c'est vrai.
Non,
mais j'ai fait deux associations, mais j'ai jamais pensé à
aller manger là-bas.
L'annonce est faite.
C'est parti.
Dans cette enfance, ça se déroule à Maubeuge, Leïla.
Dans les Hauts-de-France, absolument, avec une famille donc qui chante, qui aime la musique, qui. Vous êtes la petite dernière.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes restée la petite dernière pour toujours, en fait.
Ah bah oui.
Bah ouais.
Ouais.
Parce que les grandes étaient déjà parties de la maison, donc ça fait une autre éducation ou pas par rapport aux grandes?
Bah il paraît, hein. Ça c'est plutôt mes sœurs qui m'ont dit « Ah, t'as de la chance, ils ont été plus sympas avec toi ».
Vous avez une dizaine d'années d'écart, c'est ça à peu près?
Exactement.
Ils étaient quoi, plus permissifs avec vous qu'avec elles?
Un petit peu, alors non, parce que mes parents ont toujours été assez stricts, mais c'est d'après ma grande sœur surtout, elle me disait « Ah quand même, ils sont plus sympas ». Je dis « Ah bon ?» Ah oui,
tu les trouves sympas, toi?
Ils sont extraordinaires en plus, ils sont géniaux. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est assez commun à toutes les familles, que la petite dernière, on lui permet plus de choses. Quoi.
Enfin, c'est toujours le sentiment que les autres, en tout cas dans la fratrie, peuvent avoir.
Oui.
Ouais. Elsa Zieberstein, dans les années 2009-2010, vous écoutiez peut-être.
Ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge.
Superbe texte sur ce que l'on transmet. On transmet pas que des bonnes choses, on transmet aussi des défauts dans cette chanson.
Elle est magnifique cette chanson. J'ai écouté beaucoup aussi avant d'entrer en scène ou de faire un film.
Et toujours. En 2009-2010, Leïla, pour Elsa, c'était...
C'est une belle année, le César de la meilleure actrice pour un second rôle dans Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel. Et puis, vous êtes sur scène aussi dans Le démon de Anna à la Comédie des Champs-Élysées.
Oui, au même moment.
Rappelez-vous, Avenue Montaigne.
Je ne savais pas que c'était à ce moment-là, c'est pour ça.
2009-2010, ces années-là, où vous incarnez Anna Arendt. Donc il y a des années comme ça où on a l'impression que tout s'aligne, joyeux, parce que vous êtes allé chercher ces propositions-là, parce qu'elles sont arrivées. Est-ce que vous êtes une chanceuse au sens où vous n'avez qu'à tendre la main ou vous avez besoin de vous démener?
Non, ça c'est des films qu'on m'a proposés.
En général.
Et la pièce. Je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Je crois beaucoup au destin, moi. Ouais. Je crois qu'on crée son propre destin. Je crois que le désir très ardent, quand Piala m'a choisi, je me suis toujours dit j'étais certaine qu'il allait me choisir, mais parce que je dégageais peut-être du désir. Je crois que c'est un peu les deux. Moi, j'aime le film sur Simone Veil, j'en ai eu envie, donc je suis allée développer ce film et j'en ai eu très envie parce que j'admirais beaucoup Madame Veil et que je pensais que c'était important à faire. Je crois que c'est un mélange. J'adore. On doit être désiré quand on est actrice. Donc c'est ça, mon destin d'actrice, c'est d'être désiré. Et en même temps, je trouve ça, quand t'as des envies, c'est beau de pouvoir aller les chercher.
Quand vous dites « je crois au destin », ça veut dire que tout est écrit, y compris ce qui ne doit pas se faire ?
Non, je crois au destin dans le sens où je pense que, au contraire, il y a une sorte de trame, mais après c'est nous qui influons, qui bougeons les lignes.
Le libre arbitre,
Je crois aux signes. Je crois qu'en fonction de ce qu'on va faire, ou regarder, ou rater un train, ou... Ça me paraît absolument fou. Des fois, les choix de vie, je suis obsédée par les « si ». Et si j'avais pas été dans ce restaurant ? Et si... Enfin, tout est comme ça.
Et si j'avais pas accepté ce rendez-vous ? Et si...
C'est vrai que c'est dingue.
Et si j'étais arrivé comment en le retard, j'aurais construit. Raté...
C'est assez fou comment le destin se construit. Et comment, finalement, en fonction des moments de vie, on voit les choses. Un bouquin que tu vas lire à un moment... Tu vas être beaucoup plus réceptif et dire « Ah, ce livre me bouleverse pour telle et telle raison, ça change ma vie. »
On a dit avec Tonino,
Benacquista... Et comment les films aussi...
Oui, absolument.
C'est assez
incroyable.
Va dire
demain. Très bien, c'est bien de le dire
demain.
Non,
mais c'est vrai que ça me passionne, ça. Et on va tous... On peut aller chercher notre destin. Il y a cette phrase de René Char que j'aime. « Impose ta chance, sers ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » René Char. Et j'ai toujours cru qu'il fallait aller décrocher les étoiles soi-même aussi. Voilà.
Mais ça nécessite du travail. C'est pas, il y a la chance peut passer, mais il faut savoir aussi la saisir, l'opportunité.
Oui, c'est sûr.
En 2009-2010, Camilou, vous écoutiez. J'ai écouté une vision de mal, elle est dingue. Soul Man, et elle se met à la guitare.
Et ouais, premier album pour vous, Camille.
Ouais. Comment ça s'appelle Jimmy, La Grande Aventure.
La Grande Aventure, quel était un peu le répertoire ?
C'était pop. C'était vraiment pop, pop folk.
Pourquoi il est plus sur Spotify ? Parce que j'ai cherché.
Ah, je sais, c'est bizarre qu'il soit plus sur Spotify, c'est possible. Il était tellement chouette cet album.
Mais non, mais pourquoi il est plus ?
Ben, je sais pas, faudrait que je le demande de le remettre sur la plateforme. C'est très étrange. Peut-être qu'il faut chercher d'une manière un peu particulière en écrivant.
Lou, L-O-U-P.
Non. Mais tu sais que j'ai fait ça sur YouTube, je m'appelais Camille Loup. Non, Lou, L-O-U-P. Pardon, c'est pour que les. Sinon, il n'y a pas de différence.
Il y a un album,
Camille Loup,
donc.
Des reprises.
Ouais, il y a un album, il y a aussi de la scène. Vous tournez, vous faites des premières parties, notamment celle de Cœur de Pirate.
J'ai fait la première partie de Cœur de Pirate dans mon petit village.
Béatrice qui revient avec un nouvel album.
Elle
a un nouvel album, là, Cœur de Pirate, qui arrive vachement bien.
Ah, faut que j'écoute.
Ah ouais, super.
Et au point de vouloir reprendre, par exemple, un nouvel album bientôt, ou de vouloir rechanter, soit le faire que dans le monde de la musique, ou de le faire dans le monde du cinéma ou du théâtre, et de mêler tous les arts.
Une comédie musicale, comme elle en rêvait.
Ah, c'est ça.
Mais j'ai fait déjà de comédie musicale à l'époque, et j'adorais. J'aimerais bien retourner, pourquoi pas. Après, la musique, j'ai arrêté parce que j'ai vécu un moment un peu difficile avec les maisons de disques où je pense que j'avais pas une identité assez forte et un caractère assez fort pour imposer ce que j'étais. Peut-être même que je m'étais pas complètement trouvée. Et on voulait me faire des choses qui me ressemblaient pas forcément et j'ai préféré faire de l'acting. Enfin, c'est surtout qu'en fait, l'acting s'est présenté, ce métier s'est présenté à moi. Je trouve ça, pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir choisi ce métier, mais que ce métier m'a un peu choisi. J'étais surprise. Et on m'avait demandé d'un peu arrêter parce que les tournages commençaient à les embêter là dans la musique. Ils se disaient non, ton tournage là, on peut pas faire ce qu'il faut pour les albums et tout. On m'a dit un peu arrête l'acting et je me suis dit mais j'ai pas du tout envie d'arrêter l'acting, donc j'ai fait le choix de jouer la comédie. Mais la musique, j'ai pas chanté pendant 2 ans parce qu'un peu comme Natacha, on a pu me dire ta voix est trop lisse, t'as pas d'identité, t'es chiante quoi. Grosso merdo, c'est ce qu'on disait, c'est chiant. Et j'ai baissé les bras, pas comme Natacha qui elle n'a pas baissé les bras. J'aurais aimé voir ce film à cette époque. Ne pas baisser les bras. Et j'ai arrêté de chanter pendant 2 ans parce que je supportais pas ma voix et je la trouvais pas belle, quoi. Je voulais plus chanter. Et là, dernièrement, on m'a demandé de venir chanter pour rendre hommage à Grégory Marshall à la Star Academy avec Marine. Et c'était un moment qui m'a émue, mais tellement. C'était hors du temps et je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté de chanter?
Ça vous fait du bien.
Parce qu'on m'a dit d'arrêter de chanter, mais c'est fou d'arrêter de chanter parce qu'on nous dit de le
c'est
faire.
C'est que vous aviez pas les bons autour de vous à ce moment-là aussi.
Peut-être.
Bah, non, mais il y a toujours des nuisibles aussi qui sont là en train
mais c'est dingue.
Les donneurs de son.
Arrêter de chanter même chez vous, pour vous.
Ah oui, oui. Ah non, mais pendant. Je pouvais
plus
ouvrir la bouche.
Parce qu'on peut très bien ne pas chanter publiquement, faire un métier, mais chanter au quotidien.
J'arrivais pas. Vraiment, je disais que c'est inutile, quoi. J'étais inutile, quoi.
En 2019, Elsa Zieberstein, vous écoutiez. I love being bitter. It makes me feel better. Bitter feels better than trying to keep bitter and not. Yes, I love being bitter. Artiste incroyable avec des chansons, Chaperone, avec ce titre Bitter, mais qui est là aussi.
C'est pas la chanson que j'avais choisie.
Pardon ?
C'est pas la chanson que j'avais choisie.
Non, mais on avait.
J'adore Chaperone.
On avait les artistes et pas les titres, pardon.
Ah bon, d'accord.
Ok.
Picture You, elle est superbe.
Bah, toutes.
Picture You, c'est génial ce qu'elle fait.
Même là, je crois qu'elle est numéro 1 en Angleterre.
Mais j'en
suis
folle.
Ouais, absolument.
Ah, j'ai pris la
Phénoménum, la chanson aussi. Et dans ces moments-là, 2019-2020, plutôt. Les mythos du soir. Qu'est-ce que c'est que les mythos du soir?
Non, c'était pendant le confinement.
Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que
je m'ennuyais et du coup, comme j'aime pas le réel, moi. J'aime pas le réel. Donc, j'aime pas trop le réel. Donc, j'ai inventé une fille qui était pas du tout en confinement et qui était dans sa vie normale, qui faisait des dîners, mais il y avait personne qui venait, qui recevait des bouquets de fleurs pourries.
C'était hyper
qui allait sur son palier, on l'a tirait, elle allait à New York, elle avait un bruit d'aéroport.
Dans l'espace.
Je suis allée même dans l'espace, je suis allée à Cannes, sur mon escalier d'immeuble. Voilà. Donc, j'ai écrit un scénario pour faire un film.
C'est un pitch de film, non?
Oui, je vais faire le film. Voilà.
Bah ouais, évidemment.
Ouais, l'idée, évidemment. C'était aussi de procurer un petit peu de petites parenthèses dans une période.
Ouais, en fait, tous les soirs, je postais ça. J'avais ma soirée chiffre, quoi, tous les jours.
Vous écoutez, Camille.
Ah oui, ah ça, c'était le bazar de la charité. Ouais. L'époque du bazar de la charité.
Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t'as compris. Balance ton quoi. Un jour, peut-être, ça changera. Balance ton quoi.
Eh ouais, c'est le carton de succès du bazar de la charité.
Avec des costumes, des décors de partout, un film d'époque. Et ça, j'imagine que ça, c'est une joie aussi de tourner dans ces conditions-là.
Ah oui, le bazar de la charité, c'est rigolo. Le lien, en fait, pourquoi j'ai fait le lien avec cette chanson? Parce que le réalisateur du bazar de la charité, Alexandre Laurent, que j'aime d'amour, il adore tourner en musique.
Oui.
Et moi, ça, mais alors là, c'est instantané.
Il crée l'ambiance sur le plateau.
Il crée l'ambiance sur le plateau en musique pour une séquence. Il a vraiment une musique en tête.
Pas avec la BO.
Non, elle n'est pas encore prête, la BO du film. Et cette chanson, il la remettait souvent. Et il y avait un personnage révolutionnaire qui s'appelait Victor Meutlet. Et c'est énorme parce qu'il le mettait à chaque fois pour ses séquences à lui, parce qu'il voulait qu'il rentre dans l'univers féminin de mon personnage.
Oui.
Et c'était trop bien. Enfin, j'adore. Et puis, on adore Angèle et on adore ce titre.
Et les sagas vont continuer. On va parler de l'avenir dans vos prochains tournages. Mais d'abord, revenons à Natacha, presque hôtesse de l'air, et cette intrigue autour de la Joconde et toutes les questions que l'on se pose sur les œuvres d'art. On va vous les poser. Cécile Lauvergne, merci de venir à ce micro.
Bonjour,
bonjour. Vous travaillez au Louvre,
oui.
Où réside la Joconde. Est-ce qu'elle va bien, cette Joconde?
La Joconde va bien pour une dame qui a plus de 500 ans. Elle se porte plutôt très bien.
Est-ce que c'est la vraie?
Oui, voilà.
Et alors, oui, c'est la vraie.
Pourquoi cette rumeur de dire ce sont...
Je pense que c'est lié au vol, mais je crois qu'on va y revenir. En particulier, mais peut-être dire d'abord une chose importante, c'est que le Louvre est un musée national. Ça veut dire que c'est un service public. Et donc, cette...
comment dire, cette espèce de fantasme comme quoi on garderait les œuvres les plus importantes pour les mettre en réserve. Pour des gens de musée, c'est un non-sens absolu, en fait. Notre vocation à tous, au Louvre, des agents de surveillance, aux conservateurs, c'est de transmettre, et donc...
Oui, mais on pense à la protection, en se disant...
Oui, mais elle est très bien protégée. C'est l'œuvre d'art la plus protégée au monde, vraiment, sans... Enfin, je pense qu'il n'y a aucun équivalent dans le monde.
Ah bon, elle est protégée comment ?
Elle est protégée dans une...
C'est le code 2232.
J'essayais si Céline avait lâché un truc...
Il y a du fil alimentaire dessus.
C'est très compliqué.
Quand tu joues à cache-cache avec ta fille, tu lui dis, mais t'es caché où ?
Elle est protégée dans une vitrine qui est une vitrine pare-balles dont le système d'ouverture est très compliqué, qui nécessite voilà, des manipulations qui sont absolument pas du mais tout évidentes. Donc elle est très à l'abri.
Est-ce qu'il y a plus de vols dans les musées ? C'est un truc d'une autre époque, ça. Bon, je parle dans le monde. Hein. Je parle
non,
pas que
ça arrive. Si vous cherchez un petit peu, vous verrez qu'il y a des vols qui
mais
arrivent.
Mais impossible à commercialiser, parce que tout le monde
reconnaît... C'est impossible à commercialiser.
C'est traçable,
absolument. Pour des collections privées. Au musée d'art moderne, il y a eu un vol au musée d'art moderne, vous vous rappelez, c'est une histoire incroyable, il y a eu un film là récemment.
Mais le but, c'est pas de commercialiser, c'est de la garder pour soi. Parce
non,
qu'on peut pas,
c'est-à-dire que si jamais une œuvre d'art, particulièrement d'une collection publique, mais pas forcément que publique d'ailleurs, arrive sur le marché de l'art après un vol, de toute façon, elle est identifiée, il y a des services comme l'OCBC, etc., qui réagissent immédiatement. Et si ça arrivait sur le marché, enfin, si on prend l'exemple de la Joconde, si pour une raison
désastreuse,
elle se retrouvait sur le marché
sauf
de l'art,
si c'est...
elle est invendable
oui, mais Céline,
et elle ne peut absolument pas...
Sauf si c'est une commande, c'est-à-dire que je suis un riche collectionneur, je veux la Joconde, elle ne va pas aller sur le marché de toute façon cette
oui,
toile.
Oui, mais ça finit toujours par ressortir, grosso modo.
Ah bon, j'ai l'impression que vous êtes très malin au Louvre, là. Hein, on fait pas ça et on retrouve. Donc,
le débat entre l'Italie qui réclame que cette œuvre revienne, ça, c'est même l'objet de certaines vannes aussi régulières en disant cette toile est italienne, elle n'est pas française.
Alors, il n'y a pas de demande de restitution officielle de la part de l'Italie pour récupérer la Joconde. Par ailleurs, on va rappeler que c'est un panneau de bois, c'est pas une toile, la Joconde. Elle est peinte sur un panneau de peuplier. Donc,
d'ailleurs, ça sent quelque chose quand ça brûle, le bois de peuplier.
Les gens qui vous disent qu'elle a été volée parce que le voleur l'a roulée sous son bras, je ne sais pas comment il a roulé le panneau.
Elle n'a jamais été volée.
Elle a été volée en 1911.
C'est juste qu'il n'a pas roulé sous son bras.
Voilà. Et elle a disparu pendant 2 ans.
Wow.
Elle a été volée par un ouvrier italien qui s'appelait Vincenzo Perugia, qui travaillait au Louvre comme vitrier, comme peintre en bâtiment. Il l'a gardée pendant 2 ans et il a fini par contacter en fait le directeur du musée des Offices à Florence. Alors il a beaucoup dit lui qu'il avait agi par intérêt patriotique pour l'Italie. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, quand ils contactent les offices, c'est pour vendre la Joconde et non pas pour la restituer à son pays d'origine.
On peut avoir les deux.
Est-ce qu'il y a une toile, un endroit, une galerie où il faut aller au Louvre parce que vous estimez que bah justement on ne va voir que la Joconde ou que telle ou telle œuvre ?
Alors,
est-ce qu'il y a une œuvre vous qui vous touche et que vous aimeriez que l'on aille voir ?
Alors ça va pas être très loin parce que c'est dans la grande galerie, donc à proximité immédiate de la salle des États où se trouve la Joconde. Il y a un autre tableau de Léonard de Vinci qui moi est très très cher à mon cœur pour plein de raisons, qui s'appelle la Sainte Anne. Qui pour moi est le plus beau tableau du monde et on retrouve en fait tout ce qui fait la magie de l'art de Léonard de Vinci et notamment cette façon qu'il a de rendre les sourires et dans la Sainte Anne il y a 3 personnages, il y a Sainte Anne, sa fille la Vierge Marie et l'enfant Jésus et chacun a un sourire différent et Léonard a créé une variation sur le sourire depuis le sourire assez affirmé de Sainte Anne au sourire très joyeux de l'enfant en passant par un sourire presque douloureux de la Vierge qui est dans l'acceptation en fait du sort de son fils et Léonard il aime ça, c'est capter le mouvement
de la vie, cette ambiguïté, le sourire. Pourquoi Léonard aime autant le sourire? C'est parce que le sourire, c'est l'expression humaine par excellence, mais c'est aussi l'expression ambiguë par excellence. C'est un mouvement, c'est ce qu'on voit dans la Joconde, c'est ce qu'on voit dans la Sainte-Anne. Et devant ce tableau, il y a des émotions extraordinaires, en fait.
En tout cas, la manière dont vous en parlez, ah oui, ça donne... Ouais.
On a envie de vous l'offrir, du coup.
Merci, Daniel.
Ça donne envie. Merci, Céline Dauvergne.
Merci à
vous. Louvre ouvert tous les jours, sauf...
Le mardi.
Le mardi. Et la nuit.
Et la nuit, parfois.
C'est Kersaïs, la nuit, pardon.
Oui, voilà.
Il y a des spéciales. Il y a des spéciales la nuit, parfois. Il y a quelques
la nuit, c'est spécial. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs moments pour venir au Louvre, ce sont les nocturnes. Ouais. Le mercredi et le vendredi soir. Et effectivement, Camille, elle connaît bien
chance.
Le Louvre.
C'était incroyable, ce moment. Vraiment, ouais, de pleine nuit, personne. Le Louvre vide. Mais c'était fou.
Ah oui, sans toile. Ils avaient tout vidé, tout enlevé.
Ils avaient trop peur pour les vols.
Et on avait raison.
Tanguy Passiro, tu nous en rejoins. Bonjour, oui. De quoi vas-tu parler?
Je vous parlais de la nouvelle tendance sur TikTok, les oreilles de Tchétchène. C'est comme ça que les TikTokers, ces ordures racistes, les appellent. Ça signifie s'éclater les oreilles, vous savez, comme dans le MMA, pour prouver qu'on est un bad boy.
Ouais, très bien. On continue évidemment de parler de Natacha. Presque, pardon, hôtesse de l'air avec Camille Lou et Zazie Bernstein. Et dans la dernière demi-heure, il y aura également Emma Bauge.
Coucou Tristan.
Et nos invités Camille Lou et Zazie Bernstein.
La bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Un film dont nous parlons, Natacha, hôtesse presque, hôtesse de l'air. Décidément, je trace toujours la route en oubliant le presque. Natacha presque, hôtesse de l'air, mais tout est dans le presque finalement, avec des à peu près, un ministre à peu près ministre, une hôtesse qui ne l'est pas encore, un complotiste presque au courant de tout ce qui va se passer dans les années qui viennent, une amoureuse presque déchue ou déçue ou qui va retrouver son amour, et puis un Vincent de Dienne qui est juste presque. Camille Lou et Elsa Zieberstein, comment vous qualifiez vos personnages respectifs? Quand j'ai dit amoureuse, malheureuse, ça...
Colette est habitée, animée, vibrante, aimante, rêveuse.
Dans l'attente.
Brisée et dans l'attente.
Ouais, mais qui d'un coup va se mettre à agir alors qu'elle attendait pour l'instant.
Elle attendait un homme qui ne viendra jamais et elle va enfin comprendre grâce à Natacha que peut-être qu'il faudrait qu'elle arrête de rêver et d'être dans la dépendance de ce pervers narcissique et qu'elle sorte de chez elle. Voilà. Donc après elle va vers son destin et...
Et vous parlez des pervers narcissiques, on parle justement de la condition féminine de Philippe Vieux qui est absolument dingue en mari d'Anne Charrier.
Le film est très féministe.
Mais voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, en nous renvoyant ces clichés des années 60 qui aujourd'hui font rire, mais qui étaient la réalité.
Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans les années 60?
Il y avait quelques publicités qui disaient que, monsieur, pour rendre votre femme heureuse, achetez-lui cette machine à laver le linge, et ainsi de suite. Il y avait des
tons comme ça. Il y a des super machines aussi.
Exactement.
La vanne est faite en disant...
La fête des mères, regarde la pub.
C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est ce qu'il dit. Tu l'auras pour la fête des mères.
Mais c'est encore aujourd'hui. Ton robot mixeur, c'est aussi qu'est-ce que c'était d'être une femme dans ces années-là et le rapport homme-femme qui a évolué heureusement et qui n'est plus le même, mais aussi les femmes dépendaient financièrement des hommes, elles n'avaient pas forcément le carnet. Ouais. C'est important
de
le dire.
Pas de compte en banque, pas le droit
de carnet de chèque,
sans l'autorisation du mari.
Voilà, tes conventions et c'est cet état de fait qui fait qu'elles n'avaient pas cette liberté.
C'était tellement mieux avant. Et Camille, ce film avec tellement de cascades, pardon, mais évidemment. Évidemment, vous êtes en tenue d'hôtesse de l'air pendant tout le film, ce qui n'est pas la meilleure tenue pour
talons.
Faire... Et en talons, c'est vrai, ce qui n'est pas la meilleure tenue pour faire des cascades. Mais quelle énergie, il faut quoi? Un coach, il faut un entraînement physique, courir en permanence.
Alors,
il y a une sorte de dynamisme dans votre personnage permanent.
Oui, alors après, je suis un peu comme ça dans la vie, je suis un peu comme Natacha. Moi, je suis très dynamique, vous avez pu le voir dès ce matin. Je suis une petite tornade, je suis très déterminée.
Il est midi, c'est bon.
Ça va. Oui, pardon, il est midi. Oui, mais bon, je me suis levée tard. Non, oui, pas oui, du tout en plus, c'est faux. Mais non, je suis très déterminée, je suis hyper active.
Quand elle a pas de texte, c'est n'importe quoi, hein, Camille. Ça part dans tous les sens.
Compliqué, certains comédiens.
Ouais. Apparemment, vous êtes nombreuses hein, là-dedans.
Oui, oui. Ah oui, oui. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Mais il en faut pour faire Natacha.
Ouais, tout sur l'énergie.
Et oui, non, effectivement, après le.
Coach
le,
ou pas,
le oui, j'ai eu un coach, mais j'avais fait 4 size juste avant et j'ai fait 6 mois de préparation sportive assez intensive avec Tony Fisher, mon super coach.
Super bien.
Il est génial, franchement, il est trop trop fort.
Qu'est-ce qu'il faut comme préparation pour Natacha, presque hôtesse de l'air? Il a fallu du cardio, il fallait courir.
Ah oui, il faut protéger ses articulations, mais comme dans la vie en général, on devrait tous protéger ses articulations, parce qu'on court beaucoup en talons, donc
écoute,
aussi travailler les chevilles.
Protège ses articulations.
Je les protège, je suis en talons aussi. Oui.
C'est non mais faire du sport, c'est très bon pour la santé, vous savez le sport, très très bon pour la santé.
Et cette énergie, ce dynamisme, on le ressent dans tout, dans la musique du film, dans le montage. Dans les couleurs extrêmement vives, dans les réparties. Et ce qui est bien, c'est que on retrouve Vincent Dedienne et Fabrice Uchini comme Baptiste Caplin. Je parle de ces trois-là en particulier parce que ils font des seuls en scène. Ils ont leur humour, leur univers aussi.
Et leur univers, il est présent dans le film aussi.
Et voilà. Et ils arrivent à rentrer dans leur personnage, mais en gardant ce qu'ils ont créé comme personnage sur scène.
C'est ce qui fait toute la force de ce film. Je trouve que chaque personnage est juste sincère. Non, ouais, mais vraiment, on y a tous mis de nous, en fait, et c'est ça qui est fort et qui est beau, moi.
Et les clins d'œil aussi à des films des années 60, 70.
Il y a beaucoup de refs.
Voilà, absolument. Il y a beaucoup de références à De Broca, même Mademoiselle de Rochefort dans Les Couleurs, même si ça ne ressemble pas à l'univers
les
de
Demi,
mais
les
il y a un petit peu les jumelles quand même, hein, il y a des clins d'œil à ça. Même les matelots, les deux matelots.
Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est ça n'a un peu rien à voir avec ce que vous dites, mais. Si, un petit peu quand même. Mais c'est juste
apparemment,
que...
vous captez notre radio.
Oui, complètement. Vous voyez, moi, j'ai plusieurs antennes. Mais je trouve que c'est un mix entre Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre et OSS 117.
Ok.
Je trouve que c'est un mélange des deux.
Ben c'est en tout cas, on est dans des adaptations de romans ou de bandes dessinées avec.
Oui, mais même dans ce qui a été fait au niveau de la réalisation et tout.
De la double lecture, aussi bien pour tous les âges, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que tout le public peut voir et assister à ce film. Donc Didier Bourdon, je l'ai cité déjà, Antoine Gouy, je ne l'ai pas assez cité, Anne Charrier que j'embrasse aussi, Fabrice Uchini en voix off, Isabelle Adjani en Mona Lisa, quoi. Il y a un moment il faut quand même balancer aussi, tout ça c'est à voir et à rire en famille, ça tombe bien, les vacances scolaires vont arriver je pense dans ce courant de mois d'avril pour les vacances.
Bientôt.
Donc ça tombe. Non, je sais plus quand c'est les vacances scolaires.
Tu sais même pas quel jour on est, Nagui.
Bientôt. On est jeudi. On est jeudi 27. Voilà, et le film sort le 2 avril. Voici Tanguy,
La violence ne sert à rien. On est là à jouer les gros bras. Viens. L'autre jour, Attic, un rappeur, j'ai vu la vidéo, est en concert. Un gars dans le public l'insulte. Je sais pas pourquoi, moi j'ai un public de gens qui m'adulent. Hein, je crois qu'on a le public qu'on mérite. Je dois être une belle personne. Le cosmos me le renvoie fois mille. Je suis un être de lumière. Tellement que pour lire le soir, je me sers de ma tête comme lampe de chevet. Attic, donc, regarde l'homme qui l'insulte et lui dit, toi, je vais te je ne dis pas le reste, nous sommes jeudi, jour des enfants distraits qui ont cru qu'on était mercredi et sont restés à la maison. Le type continue, Attic dit, je vais ni ta mère, puis dans la foulée, dit pareil de la grand-mère. Et là, je me suis dit, un gars capable de faire ça à toute une famille. Et un, problématique. Deux, très endurant. Et moi, cette violence verbale, ce langage de petite frappe me désole. Fais ton concert. Si tu chantes, le mec, on l'entend pas, c'est du rap, c'est fort au niveau sonore. Si dans un concert piano-voix, quelqu'un hurle Vincent Delerm, mange tes morts. Là, ce sera compliqué à gérer. Hein, mais ça n'arrive pas, parce que le public de Vincent Delerm est raffiné. La preuve, j'ai fait toutes ces tournées. En octobre, je serai encore à la Cigale pour le voir. J'espère ne pas exploser d'ici là. Parce que je voudrais pas que ma présence détourne l'attention des spectateurs, donc il faut absolument que je reste ici, avec vous. La violence, partout la violence, le monde est hostile. Un regard qui va pas, on se fait planter. Il y a que les non-voyants qui ont une belle espérance de vie. Et hier, j'étais sur TikTok parce que je me suis ouvert un compte. Le système m'a classé dans la sélection boomer pathétique. J'ai fait 3-4 vidéos pour voir avant de me lasser. J'ai 1700 followers. Hein, les 1700 qui ont cliqué par erreur sur le bouton s'abonner, donc des parkinsoniens et des maladroits. Et j'ai vite compris que l'algorithme était très pervers.
d'ailleurs, parce qu'on regarde un contenu et ensuite on nous propose des centaines de contenus sur le même thème. La première vidéo que j'ai vue, c'était une fille qui expliquait comment se débarrasser de ses points noirs sans les percer. Bah, j'en suis à 300 vidéos sur le sujet. Je suis devenu un expert, j'ai appelé Yves Rocher pour ouvrir une franchise. Old de Laf d'ailleurs, voilà, tu devrais prendre soin de ta peau, tu as un phototype de peau 2. Hein, protège-toi. Voilà, c'est pas parce que tu as des textes que tu dois te moquer de ton physique. Hein. Oui, ce qu'aiment les gens, c'est mon œuvre. Ok, ok. Mais personne n'a jamais fait l'amour à une partition. Alors Hector Berlioz, un soir, il avait envie tout sauf de se mettre au piano. Et sur TikTok, il y a aussi des tendances. En ce moment, ce qui marche, ce sont les tutos pour se faire ce qu'ils appellent des oreilles de Tchétchène. Oui, c'est raciste, mais c'est comme ça que c'est défini. Ça repose sur le cliché selon lequel les Tchétchènes sont violents, alors que ce sont des êtres adorables. J'ai un ami qui devait de l'argent à des Tchétchènes et n'arrivait pas à les rembourser, qui m'a dit « ils sont comme ça » en levant son pouce. Bon, la fois suivante, il n'avait plus son pouce. Après, il a perdu un doigt par jour. Hein, mais ce petit geste du moignon qu'il faisait à la fin en parlant d'eux, mais ça voulait tout dire. Bref, des oreilles de Tchétchène, ça s'appelle aussi des oreilles en chou-fleur. C'est typique des sports de combat. Vous savez, quand on prend des coups, on saigne de l'oreille. Moi, c'est une fois par an que ça me fait ça quand j'écoute les Energy Music Awards. Ensuite, il y a un hématome. L'oreille se rétracte, c'est moche. Mais c'est le signe distinctif des bad boys. Après, on se balade dans la rue et les filles font waouh. Sauf les filles qui aiment Vincent Delerme qui font oui, moi, je préfère les oreilles un peu fines. Et si entre les oreilles, il y a un regard expressif et ces ridules qui racontent un parcours de vie, je fonds. Tout ça, dit BFM TV, qui a enquêté sur les oreilles de Tchétchène, vient du MMA, sport très populaire. Moi, j'ai horreur du MMA. Voir deux mecs se taper dessus jusqu'à presque détruire l'autre, je vois pas le truc. Déjà, le tennis, quand la balle est servie un peu fort, j'ai envie de la sauver. Un Conor McGregor, champion de MMA irlandais, qui a un corps énorme et un mini-cerveau. Sa tête fait 700 grammes pour une demi-tonne au total, veut même se présenter à l'élection présidentielle dans son pays. C'est dire la popularité de ces gens. Résumons, avoir des oreilles en chou-fleur, c'est dire à l'autre, je suis un dur, un fou, je vais faire pire qu'Attic. Si tu me cherches, je vais remonter jusqu'à ton arrière-grand-mère. Je vais insérer mon sexe dans ton arbre généalogique et faire tomber tes ancêtres qui sont planqués dans les branches du haut. Dans un monde dur, violent, binaire, sans nuance, on frappe au lieu de parler, on beugle au lieu de murmurer, alors que c'est si beau les murmures. Old Olaf Manchou utilise un savon à base de pH neutre. Vraiment. Il faut se faire une carapace, un corps de lutteur, des oreilles de cogneur pour survivre. C'est si triste ce retour à l'âge de pierre. Dieu sait pourtant que j'aime les jeux de rôle. Et c'est là que je réalise que j'en dis trop sur moi. Mais ce rôle-là, celui du dur, du trop viril, du toxique, du frappeur, franchement, j'en veux pas. Moi, je crois à la douceur, au pardon. Si un jour, dans mon public, quelqu'un m'insulte, je lui dirais « je ne veux que du bien à ta mère et à ta grand-mère. Prenons un thé un jour, tous ensemble. » Parce que le thé, ça détend. Jamais un salon de thé n'a donné lieu à un début de guerre des gangs. Pas une fois Tupac, en 95, n'a dit « oui, j'étais là, tranquille, en train de boire une verveine. » Quand soudain, Notorious B.I.G. fucking G a déboulé avec ses gars pour me faire la peau, j'ai vu qu'il ne rigolait pas au fait qu'il a pris deux sachets de bergamote. Sinon, point médecine, se faire des oreilles de Tchétchène, concrètement, c'est tirer dessus, s'abîmer le cartilage, se les éclater. Mais le souci, c'est que c'est irréversible. C'est-à-dire que si un jour vous devenez moins con, que vous avez la révélation, ne pas avoir une tête de sociopathe, c'est ok. Eh ben, ce sera trop tard, les gars. La violence, jamais, ne doit être notre boussole. Old Olaf, je t'aime. Et même si tu brillais moins, je t'aimerai aussi. Arrêtons tout ça, allons vers le respect de l'autre, y compris des mères et des grands-mères à qui l'on doit tant, à qui l'on doit tout.
Tanguy sur scène ce soir à Toulouse et le 16 avril à Clermont-Ferrand.
C'est la BO de Natacha Presque, Hôtesse de l'air, le film de Noémie Saglio, avec Camille Lou, Elsa Zieberstein, qui sont nos invités, mais également Vincent Dedienne, Didier Bourdon, Antoine Gouy, Fabrice Lucchini, Isabelle Adjani, Anne Charrier, Philippe Vieux et NBO. Avec Julie London et Sheila aussi. D'autres événements culturels.
Oui, on cherche une artiste qui a opéré un petit virage, mais pas un virage artistique, un virage, j'ai envie de dire, du côté du lifestyle. Et vous la connaissez toutes, c'est une artiste américaine. Elle commence à se rapprocher d'un mouvement qui est né justement aux États-Unis, qui fait de plus en plus d'émules.
Minimalisme.
Tout a commencé en 2022 avec les Fascinating Woman, oui absolument, les Tradwives. Et je parle d'une chanteuse que vous connaissez, on vient d'entendre, c'est Gwen Stefani. Gwen Stefani qui a été donc choisie pour illustrer la bande originale quelque part de Natacha, opère un petit virage. Ben oui, elle s'est mariée il n'y a pas très très longtemps avec un conservateur, un chanteur de country, et elle commence à faire des déclarations plutôt pro-Trump. Elle a fait la pub pour des applications chrétiennes de prière, des évangélistes.
Et elle commence...
Ça, c'est des valeurs, c'est différent.
Progressivement, à se rapprocher de ce mouvement Tradwife que vous voyez tous hein, sur les comptes Instagram, les comptes TikTok. C'est quoi les Tradwife? Ça a commencé en... Alors, c'est déjà la condition de la femme dès le départ, j'ai envie de vous dire, mais aux États-Unis, en 1922, il y a eu des petits livrets qui ont été créés où on raconte comment est-ce qu'on fait pour apporter le bonheur, la joie dans son foyer, comment on inonde de bonheur son mari aussi, d'une certaine façon. Les petits conseils, c'est quoi? Ben, c'est de s'occuper de son mari.
Ah là là.
C'est d'être toujours présentable. Mm-hmm. Et on fait un petit clin d'œil au personnage d'Anne Charrier au début de Natacha. Tout faire à la maison, le mari, les enfants, la maison, la cuisine. Il faut aussi avoir une bonne condition physique, être mince, être désirable, bien entendu. Il y a différentes catégories chez les tradwives. Il y a celles qui sont plus rurales et celles qui sont plus tournées vers l'esthétisme, qui peuvent même essayer de ressembler à Marilyn Monroe d'une certaine façon, dans la façon dont on se teint les cheveux, dans la façon dont on se présente et on se donne à voir. L'idée, c'est que, au fait, ces femmes deviennent aussi des femmes d'affaires, d'ailleurs, puisqu'elles commercialisent plein de choses indirectement via leur compte TikTok. Et c'est ainsi que Gwen Stefani pourrait prendre cette direction. Alors, c'est pas fait, mais en tout cas...
C'est
plutôt bien parti. Et ça mène à plein de réflexions, ces tradwives.
C'est un retour en arrière par rapport à la condition de la femme.
Et en même temps, c'est des choses qui sont questionnées parce que aujourd'hui, en France, par exemple, 80% des tâches ménagères sont réalisées par des femmes. Et il y a plein de femmes qui estiment aussi que la promesse du féminisme, c'est une promesse qui est viciée parce que on vous promet finalement d'accéder vous-même à votre vie, mais vous vous rendez compte qu'il y a la double journée qui vous attend de retour à la maison. Et donc, certaines tradwives disent clairement dans leurs réseaux sociaux qu'elles choisissent un homme qui gagne très très bien leur vie, qu'elles veulent être certes entretenue dans de très très bonnes conditions. Et finalement, je trouve que ce mouvement-là est basique d'une certaine façon, mais pas si basique que ça. Il n'apparaît là pas par hasard, réalité.
Non. C'est une réponse au wokisme un petit peu, peut-être non.
C'est une réponse aussi à du féminisme qui ne porte pas complètement ses fruits. Voilà. Et donc on se dit, finalement, si je suis perdante partout, pourquoi est-ce que je resterai pas chez moi à m'occuper de mes enfants et de mon mari?
Mais c'est un retour du masculinisme aussi, qui a beaucoup aux États-Unis.
Mais elles ne sont pas contraintes. Voilà. Les femmes ne sont pas contraintes, parce que le masculinisme,
maintenant, elles ont la liberté financière dans...
Elles ont la liberté aussi de pouvoir être tradwife, parce que finalement c'est un choix de femme, quoi qu'on en dise, même si on n'y adhère pas.
Conditionné par une éducation à un endroit,
Pas nécessairement. Il y a des femmes qui font le choix à un moment de se dire ma foi.
Gwen Stefani
elle a le choix, mais elle
ne sait pas quelle était son éducation. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir.
Elle a eu une foi très importante. En tout cas, la religion joue une part importante dans l'histoire.
Il y a une série sur les tradwife avec Kate Blanchett qui est super bien.
Exactement. Ouais. Bah c'était Miss America, c'était pour aller faire un petit clin d'œil à Natacha. Ouais. Voilà.
Et voici notre tradition est d'accueillir Emma Bonjean. Hein. Ah, Emma.
Emma. Emma. Bonjour.
Hello tout le monde. Je suis très contente d'être là comme d'habitude, mais aujourd'hui parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai écrit un livre. Je sais, on dirait pas comme ça, mais j'ai une énorme culture j'ai une énorme culture des livres. J'adore tout ce qui est bouquin, bouquinage. Par contre, le book, c'est non. De l'Afrique, saisis-toi. Je t'ai cassé ou quoi? Eh oui, un jingle parfaitement ringard, fait par ma bouche. On m'a dit que j'en avais le droit à deux. Que comme ça, les techos à la régie pourraient en profiter pour assumer une petite roulée dehors. Alors, donc j'ai écrit un livre, mais c'est pas mon premier. J'en ai écrit plein déjà. Par exemple, la fanfiction la plus célèbre que j'avais faite, c'était Harry Potter fait The Voice Kids. Un gros, gros banger sur fanfic.org. À la fin, en fait, on se rend compte que Florent Pagny a toujours été Serpentard. Spoiler. J'ai aussi écrit un recueil de poésie. J'en suis pas peu fière. Vous voulez que je vous en lise un? Ça vous dit? Ok, c'est parti. Tu sais, mon petit, la vie, c'est pas facile. Non, la vie, c'est parfois une vraie saloperie. Parfois, tu penses que le problème, c'est les autres, alors que le problème, c'est clairement le fait que t'as couché avec tes collègues et que ça a clairement changé un truc entre vous et ça s'entend à l'antenne. Ah, pardon. Ah non, je me suis trompée. Je pensais que c'était un de mes poèmes. En fait, c'est le journal intime de Lisa Delmoitié. Oh, que je vous recommande d'ailleurs. Ça s'appelle Le verre Delmoitié vide et c'est plomb dans la cervelle. Allez, alors, j'ai écrit des livres de développement personnel également. Et ça, j'en ai écrit un paquet. Alors, parmi eux, cultiver le bonheur à travers votre pouvoir personnel, briser les limites et révéler votre vrai potentiel et faites
taire votre Daniel Morin intérieur. Tu l'as lu celui-là, Daniel, ou pas? Je sais plus. Eh ben, ferme-la, Daniel. Voilà, c'était pas compliqué, pas besoin d'acheter le bouquin. Alors, un livre, c'est génial et ça fait toujours plaisir. En ce moment, moi, je vois un mec et ça fait pas longtemps, donc pour son anniversaire, je savais pas quoi lui offrir, pam, un livre. C'est parfait. Lui, il est content et moi, j'ai pu lui montrer que j'avais un peu cerné le bonhomme quand même. Du coup, en ce moment, il lit Choupi, galère à trouver le couteau. Voilà, préface de Olivier Delafosse. Moi, je sais pas. Mais revenons sur mon livre. Donc, c'est l'histoire d'un orphelin qui découvre qu'il possède des pouvoirs magiques et intègre une école dédiée dans laquelle il se fait des nouveaux amis avec lesquels il explore un monde extraordinaire, le tout en levant le voile sur les mystères entourant ses parents, un ennemi redoutable dont il ne faut jamais prononcer le nom. Le livre s'appelle Tristan Lopin se fait radier de Pôle emploi spectacle et on suit les aventures du petit Tristan qui cherche à faire ses cachets avant sa date anniversaire. Bon, c'est une allégorie, hein. Il y a un twist de ouf impossible à voir venir, je vous spoil, mais à la fin on comprend qu'il est en fait dépendant affectif. En tout cas, j'espère que... C'est la préface, effectivement. J'espère que ça va marcher. J'ai déjà eu des super feedbacks, notamment celui de ma youtubeuse préférée, ma youtubeuse littéraire préférée. Je vous parle bien sûr de Maga Lèvres. Bonjour à tous, et c'est Maga Lèvres. Je m'appelle Magali et j'adore les lèvres. Hop là, un mot valaise. J'ai envie de recommander le nouveau roman de Emma Beaujean. Elle se lit vraiment d'une traite. Et je l'ai lu très très vite, oui. Car notamment, elle fait seulement une cinquantaine de pages, dont 12 pages de remerciements dans lesquelles elle supplie son ex de revenir. On adore. C'était Maga Lèvres. Tchou ! Et oui, un deuxième jingle fait avec ma bouche complètement éclatée. J'attends mon côté, je vais rendre l'antenne. Merci de m'avoir écouté.
Oui, Emma Beaujean, la fille de Nathalie, qui est tous les vendredis sur scène à 19h au théâtre des Mathurins.
La fille de Gilles.
Voilà. Gilles Dan.
Très bien. Ouais. Natacha, presque hôtesse, le film donc avec Camille et Zazie Berstein, mais également Didier Bourdon et également Antoine Gouy, Anne Charrier, Baptiste Caplin, Fabrice Uchini, Isabelle Adjani, Vincent de Dienne, Philippe Vieux. C'est réussi, c'est drôle, c'est rythmé, c'est musical. Voilà, et c'est malin et ça fait du bien. En plus, emmenez vos enfants, votre famille, vous allez vous régaler. Beaucoup de projets pour toutes les deux. C'était mieux demain. Vous serez avec Didier Bourdon à nouveau réunis. Ça sera
En octobre, normalement.
On a largement le temps d'en parler. Ouais. Très bien. Vous allez tourner dans le prochain film de Mounia Medour.
Voilà.
Aussi. Le biopic sur Christian Dior que vous allez produire. Mm-hmm. Ou ça, c'est une rumeur.
Ouais, je le développe. Ouais.
Et vous jouez aussi dedans ou
pas? Je vais jouer dedans, ouais.
Et puis ce mytho, donc, que vous allez
faire un film de
écrire
ça.
Ou ouais. réaliser.
Ça y est, c'est écrit.
C'est écrit ouais, et ouais. vous le réalisez aussi?
Non, c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser.
D'accord, vous pouvez dire le nom, c'est Michael Pirard, c'est ouais, pas grave. quant à vous, Camille, vous avez été annoncée, évidemment, alors Cat Size continue, ça, il y a une,
j'imagine, tout à fait.
Une autre saison.
Saison.
Chasse gardée 2, avec encore Didier Bourdon, c'est-à-dire chacune va avoir son Didier Bourdon dans son coin pour.
On ne quitte plus seule. Didier.
Qu'est-ce qu'il lui demandait hein
ouais, bien, mais également Thierry Lhermitte.
Oui. Et je finis par un film d'auteur, le deuxième film d'Anaïs Volpé, avec Dali Ben Salah.
Très bien. Pour l'instant, c'est Natacha Presque, hôtesse de l'air, qui est au cinéma ce mercredi. Que se passe-t-il des excuses, pardon, à présenter.
Oui, que se passe-t-il Désolé. Désolé, pour Camille Lou, qui on l'a bien compris. Hein, regrette de n'avoir jamais été invitée à manger au Resto du Cœur. Oh là là, sortie de route. Oh là là, le racisme social, ça sent la fin de carrière. Allez, je suis sympa, je vous invite à manger à la cantoche de Radio France, vous allez voir. Désolé pour Manu Lévy, qui a été outé par Nagui. Ouais, personne ne le savait, mais Manu Lévy est vandalo sac à vomito. Oui, je veux dire qu'il piège les sacs à vomi dans les avions. Alors, c'est par hasard, un jour, vous êtes retrouvé dans l'avion avec, sur les genoux, le menu poulet trop salé. Eh ben, c'est sûrement la faute de Marc Lévy. Manu Lévy, pas Marc Lévy. Pour les plaintes, c'est facile. Manu Lévy, groupe Énergie, 22 rue Boileau, 16e arrondissement. Prenez rendez-vous avec le service juridique au 01 40 71 40 00. Désolé pour les fans d'Oldelaf qui n'ont pas reconnu leur idole ce matin. Ça chantait juste. C'était correctement écrit. Pas d'imitation, pas d'accent, moins de jeux de mots, plus ça va, meilleur tu es, Oldelaf. J'ai hâte d'être à demain pour t'écouter face à Tonino Benacquista. Je sens que ça va être génial.
Merci beaucoup Elsa, merci Camille, bravo à Noémie. Embrassez-la pour nous parce qu'elle a vraiment réussi ce film au cinéma mercredi prochain. Nous serons le 2 avril. Natacha Presque, hôtesse de l'air. Et en effet, Tonino Benacquista est notre invité demain. Passez une belle journée sur Inter. Merci.